Vision nocturne, François Haru.
Vision nocturne, l'émission qui vous ouvre la voie céleste et musicale. Bienvenue à bord.
Just where to see the second brightest star depends on where
,2021. Il y a 20 ans, le vaisseau Discovery One se perdait vers Jupiter avec Dave Bowman, ambassadeur de l'humanité aux portes de l'univers. Même si c'est le cinéma de Kubrick et Clarke sorti en 1969, 2001, l'Odyssée de l'espace, posons-nous la question où en est le futur 20 ans après? Où en est la recherche astronomique et spatiale? Où en sont les théories de l'univers? Même si des monolithes bien terrestres sont apparus de part et d'autre, toujours pas de petit homme vert à l'horizon, toujours pas d'hôtel sur la Lune ou de station de métro dans les trous de verre. Nous ouvrons le monde de 2021 avec une émission exceptionnelle. Plus exceptionnelle encore, la présence d'Olivier Bonneton avec ses chroniques du temps présent et futur, timelapse. Les mathématiques et l'univers n'ont plus de secret pour lui. Olivier Bonneton, avec qui j'ai évolué dans la vulgarisation des sciences, nous parlera de la théorie du cosmos, sans se prendre la tête dans les étoiles. Planante et progressive, la musique de Vision Nocturne. Aujourd'hui, revenons sur le nouvel album de Vangelis, Juno to Jupiter. Après Rosetta en 2016 qui avait marqué une collaboration avec l'Agence spatiale européenne au sujet de cette sonde qui avait survolé une comète, c'est Jupiter qui est mis en musique par ce virtuose grec. E égale MC2 vers l'infini et au-delà, bienvenue en 2021.
Thank you.
Au commencement, il y eut la lumière. Est-ce vraiment ainsi que tout a débuté ? C'est en 1927 que l'astrophysicien Georges Lemaître évoque une expansion de l'univers déjà soupçonnée par Alexandre Friedman en 1922. Bien après Hubble, Einstein et la théorie du Big Bang, dont le terme fut inventé en 1949, c'est en 1965 que l'on observe pour la première fois un rayonnement diffus appelé le rayonnement fossile. Il y a donc 13,8 milliards d'années, selon notre mesure du temps, en l'espace d'un temps non mesurable, la matière s'est séparée de la lumière. La lumière, c'est bien elle qui nous préoccupe depuis toujours. Olivier Bonneton, de l'émission Timelapse, notre invité exceptionnel, nous en parle d'un œil éclairé.
Effectivement, François, vouloir faire toute la lumière sur la lumière, voilà ce qui a préoccupé un grand nombre de scientifiques tout au long de notre histoire. Platon, déjà en moins 400 avant Jésus-Christ, s'intéressait déjà à elle et aux mécanismes de la vision. Un des sens essentiels pour appréhender le monde, même si notre XXe siècle a depuis bien relativisé notre perception de celui-ci. L'astrophysique et la cosmologie se fondent aujourd'hui beaucoup plus sur ce qui est invisible que sur ce qui reste visible. Newton, en 1666, découvre que la lumière blanche provenant du Soleil peut se décomposer au travers d'un prisme en une multitude de couleurs, un arc-en-ciel allant du violet au rouge. Cette découverte, comme un grand nombre d'entre elles, augmente le cercle de nos connaissances et agrandit par là même notre horizon des questions sans réponse. Pour expliquer la déviation plus forte du violet par rapport au rouge, Newton élaborera une théorie appelée la mécanique des couleurs. Cette théorie, contrairement à celle de la gravitation, ne sera pas auréolée de succès et tombera rapidement dans l'oubli. Quelques années plus tard, un pas fondamental est réalisé par Herschel qui découvre que le spectre des couleurs mis en lumière par Newton n'est que le dessus d'un iceberg. Au-delà du rouge se trouvent des rayonnements capables de transporter de l'énergie bien que nous ne puissions les voir. Il les nommera infrarouges. De même, au-delà du violet, le physicien allemand Ritter découvrira les ultraviolets en 1801, responsables de nos douloureux coups de soleil estivaux. Ainsi, la lumière revêt un nouveau caractère en s'appropriant tout un monde invisible. L'astronomie va se transformer et chercher à voir notre monde dans le visible, mais aussi dans tous les rayonnements invisibles possibles, ultraviolets, gamma, rayons X, rayonnements radio. Mais parler de rayonnement et de longueur d'onde, pour la lumière, suppose de la considérer comme une onde et non plus comme un rayon lumineux constitué de particules. Pourtant, de nombreuses expériences comme l'effet photoélectrique découvert par Albert Einstein en 1905 mettent en avant une explication corpusculaire de la lumière. Celle-ci est composée de particules appelées photons qui transportent de l'énergie. D'autres expériences, comme la célèbre expérience des fentes d'Young, mettent en avant le caractère ondulatoire de la lumière. En faisant interférer deux faisceaux de lumière, on peut obtenir un motif de diffraction, caractéristique essentielle, prouvant que la lumière se comporte alors comme une onde. La révolution quantique, au début du XXe siècle, viendra semer un doute encore plus fondamental. En 1924, De Broglie prouve que la lumière peut se comporter soit comme une onde, soit comme une particule, selon les conditions de l'expérience. C'est ce que l'on appelle la dualité onde-corpuscule. Mais au-delà de la lumière, ce sont toutes les particules et donc la matière elle-même qui revêt cette dualité. Schrödinger établira ainsi la célèbre équation d'onde pour une particule, pilier de la mécanique quantique.
Thank you.
Time-lapse, par Olivier Bonneton.
Le XXe siècle a fourni de nombreuses avancées théoriques qui ont modifié fondamentalement notre représentation du monde. La théorie du Big Bang nous permet de raconter l'histoire de notre univers. Un univers qui se refroidit lentement au cours du temps. Du mur de Planck hautement énergétique à la fin de notre univers, la théorie du Big Bang est à même de nous apporter des éléments de réponse. Mais cette théorie reste aujourd'hui encore incomplète. Observer l'univers jusqu'à la nuit des temps, deviner son futur reste complexe et plusieurs modèles sont possibles. Du Big Rip, la grande déchirure de notre espace-temps, de la désintégration du proton dans des milliards de milliards de milliards d'années, ou du Big Crunch, l'effondrement ultime de notre univers sur lui-même, voici trois modèles qui ne dépendent que d'une information capitale dont nous ne disposons pas encore aujourd'hui, l'énergie noire de notre univers. De sa mort à sa naissance, de l'autre côté de la ligne du temps, les hautes énergies mises en jeu lors de la création de notre univers, réduisant toute matière à sa plus simple entité, sont incompatibles avec la théorie macroscopique de la relativité générale. Et les scientifiques doivent se tourner du côté des théories microscopiques de la physique quantique. Ainsi, observer la naissance de notre univers nous oblige non plus à utiliser un télescope pour englober l'univers dans son ensemble, mais à se concentrer au contraire sur les hautes énergies des collisions de particules microscopiques. Découvrir l'immensité de notre univers et de son histoire dans un simple grain de sable. Tel est le défi de nos physiciens des particules actuelles. De nombreuses théories sont à l'étude aujourd'hui. Théorie quantique de la gravitation, multivers, théorie des supercordes, et comme toute théorie scientifique, chacune d'entre elles doit être testée, éprouvée expérimentalement, avant d'être validée collectivement par la communauté scientifique. Notre monde, centré sur l'économie libérale, voit avant tout dans la science des avancées technologiques à même d'améliorer notre société de consommation et de loisirs. L'ordinateur, Internet, le téléphone portable, le GPS, le four à micro-ondes, l'intelligence artificielle. Notre monde actuel est aujourd'hui intrinsèquement lié à ces nombreuses avancées scientifiques. Mais alors, que nous réserve l'avenir de nos modèles scientifiques actuels ? Sur le plan médical, une révolution est en marche. Les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle sont en passe de supplanter le médecin en termes de détection, de diagnostic et de techniques opératoires. Sur le plan cosmologique, rien n'est moins sûr, car les avancées technologiques résultantes ne sont pas pour aujourd'hui. Nous sommes encore bien loin de pouvoir exploiter la théorie d'Hawking sur les trous noirs et les trous de ver, si ce n'est déjà une exploitation commerciale de films comme Interstellar qui aborde le sujet. De nombreuses découvertes majeures sont à venir. Certaines auront des applications concrètes, immédiates sur notre monde. D'autres découvertes nous permettront quant à elles simplement de modifier notre regard sur celui-ci et de nous questionner à nouveau. La connaissance est une perpétuelle remise en cause de notre monde, un Sisyphe poursuivant toujours le même objectif, pierre après pierre. Pour reprendre une phrase de Gaston Bachelard publiée dans son célèbre ouvrage « La formation de l'esprit scientifique » en 1938, « La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours, quelque part, des ombres. » Merci François pour ton invitation dans ton émission « Vision nocturne ».
Olivier Bonneton, merci. L'aventure continue donc. Ce qui doit perdurer malgré les épreuves que nous traversons, et notre intérêt pour l'univers, qu'il soit au fond de nous ou au-delà de l'infini, continuant à nous poser des questions, ce seront toujours les bonnes.
planante et progressive, la musique de Vision Nocturne. François Haru.
Aujourd'hui, nous survolons Jupiter avec la musique de Vangelis. Tout le monde se souvient de 1492 et Christophe Colomb. Plus récemment, en relation avec l'Agence spatiale européenne, Vangelis nous régalait avec Rosetta en 2016. Cette fin d'année 2020, il nous revient avec Juno to Jupiter, en lien avec la NASA cette fois. La richesse des orchestrations et le minimalisme de certains passages nous projettent sur le visage tourmenté de cette géante gazeuse. La qualité de cet album d'1h13 avec ses 18 morceaux est à la hauteur de cette mission d'exploration très réussie. Voici donc un échantillonnage composé de Juno's Echoes, Juno's Power, puis In the Magic of Cosmos. Vangelis, c'est tout de suite dans Vision Nocturne.
Vision nocturne, les oreilles dans les étoiles.
Thank you.
nocturne, François Haru.
Nous voici au terme de la première émission de cette année 2021. Merci à Olivier Bonneton pour son intervention. Vous le retrouverez sur sa chaîne YouTube avec notamment le numéro 9 de son émission Timelapse, le second volet de « Vers d'autres dimensions ». Pour continuer sur notre futur, y compris celui de l'exploration spatiale, je vous recommande le livre « La Lune, pourquoi on a décroché » de Lydia Mirjanian, aux éditions Saint-Honoré. Outre l'analyse des missions lunaires dont nous sommes dans les 50 ans jusqu'en 2022, cet ouvrage aborde les projets futurs du spatial avec sa version audio incluse. J'en suis le conseiller scientifique. Nous avons écouté tout d'abord une intro de « Ainsi parlait Zarathoustra » jouée par Dream Theater lors du live « Chaos in Motion » de 2007, suivi par « Big Big Train, The Second Brightest Star », « Porcupine Tree » avec « Flicker », ensuite « Eloy, Gliding, Into Light and Knowledge » de l'album « Down » en 1976, « Aireon, Fatum Horrificum Fatum » du dernier album « Transitus », les trois morceaux de Vangelis ont été Juno's Echoes, Juno's Power et In the Magic of Cosmos. Pendant les narrations, nous avons entendu Sequencia Legenda, Elevation de l'album Ethereal. Terminons maintenant avec IQ, le morceau Rise de l'album Resistance, dont vous pourrez avoir prochainement un aperçu live en Blu-ray. A très bientôt sur les ondes du cosmos.
Vision nocturne, François Haru.
We'll be right back. from way up here. When my judgment fails and lets me down, I rise up.